passage. Tiens, tu veux t'approcher? Donc c'est dans
Genèse 2, 15 à 18, 21 à 25, et Genèse 3, 6 à 12. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme : tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'Éternel Dieu dit, 21-25, oui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. »
Notre société change, notre culture change. Le rôle d'un homme, d'une femme, est désormais très, très divers, très différent. On a des mouvements, même la famille est différente de ce qu'elle était il y a plusieurs années. Alors, dans cela, c'est quoi un homme, selon la Bible, et c'est toi, quoi, une femme, selon la Bible. Et donc, je sais que c'est une patate chaude, je me lance, non pas pour jeter une pavée dans la mare, on n'en a pas vraiment besoin, mais plutôt pour essayer de donner quelques lignes directrices, sachant que, après, c'est Dieu qui donne sagesse et grâce. Mais je pense que Dieu a énormément de choses à nous dire pour nous aider, pour nous encourager, pour nous donner une ligne. Donc, je préférerais nous lancer dans cette réflexion. Nous avons lu donc Genèse chapitre 1, chapitre 2 et 3. Pour revenir à la source, à la base, Dieu a créé, il a donné des consignes qui n'ont pas a été suivi, mais c'est plutôt pour nous donner des repères, dans ce sens que j'ai voulu revenir sur ces textes, afin de nous donner quelques lignes. Donc, le fils qui demande à son père, « Mais papa, que signifie être un homme et pas une femme, ou la, fille qui demande à sa mère, « Maman, que signifie être une femme et pas un homme ?» Je pense que là, nous avons quelques lignes qui sont présentes pour nous. Ce n'est pas toujours facile. Il y a les conflits, il y a des batailles. Donc, comment définir un homme, une femme? Est-ce donc la figure, l'image macho? On fait face à beaucoup de difficultés de nos jours. Ce qui est apparent, c'est que les hommes et les femmes sont différentes. Deux femmes qui se rencontrent, se saluent, et il y a, bon, selon ici l'artiste du Times de Los Angeles, il constate qu'il y a beaucoup de points de repère et de dialogues, de discussions, même non verbales, qui arrivent. Maintenant, deux hommes qui se retrouvent. Alors, bonjour. C'est différent. Quelque part, l'homme et la femme sont différents. Alors, trois points ce matin. Premièrement, on peut reconnaître, apprécier les différences. C'est OK. Même bénéficier. Je crois que c'est voulu par Dieu, nous allons le voir. De deux, l'homme qui regarde, se tourne vers Dieu, est bénéficié. Il est avantagé, et sa famille ou son entourage, par son regard bienveillant d'un Dieu créateur, parce que Dieu façonne l'homme à son image et lui donne cette joyeuse occasion de le glorifier, refléter sa gloire autour de lui, dans son entourage. Et de trois, il devient donc responsable quelque part pour d'autres. Les différences nous posent l'école des questions. Pas de salaire. Le salaire d'une femme vaut la justice, l'égalité pour le salaire égal fait d'un homme. Mais les différences qui sont survenues ont été expliquées de diverses manières. On a essayé, par exemple, de le dire, de les reconnaître comme plutôt une quelque chose de l'environnement qui a été imposé. La société nous dit qu'il y a des différences. Mais si c'est vraiment que la société ou si c'est vraiment que l'évolution, comment faire de sorte que les deux s'entendent, qu'il n'y ait pas d'oppression? Ou encore, si on dit, d'autres disent, ce sont les différences, non pas d'une éducation, non pas d'une imposition, mais plutôt des différences qui sont purement biologiques. C'est-à-dire que l'homme, il est né avec des gènes qui sont différents qu'une femme, et donc les différences biologiques, mais encore, bien que la recherche nous constate, que les animaux, dans le royaume des animaux, les femelles sont bien différentes que les mâles dans le comportement. Les rôles ne sont pas réversibles. Ça ne résout pas. Ça ne nous aide pas beaucoup à comprendre comment résoudre donc les différences ou comment s'entendre pour qu'il n'y ait pas oppression ou difficulté dans ce sens. Donc, plutôt la vision chrétienne est que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Nous allons voir ça dans un instant. Avec les différences qui se complètent. C'est-à-dire, l'homme et la femme sont tous les deux d'une valeur créée à l'image de Dieu. Donc Dieu les aime et les estime tous les deux. De deux, les différences ne sont pas arbitraires, imposées, ni purement biologiques, anatomiques. Il y a bien plus de différences. C'est toute la fibre d'un homme, d'un garçon qui est différent d'une femme, d'une fille. Ces différences ne sont pas limitées simplement à un construit social, non plus à une forme biologique, mais sont l'être. Dieu les façonne. Or, pourquoi il y a à la fois mystère et beauté? Dieu a dit, faisons l'homme dans notre image, pluriel. Déjà, il y a le Père qui donne au Fils, qui s'incarne, qui meurt, qui s'identifie avec nous. Et on le voit dès les premières pages des Écritures, l'Esprit qui plane sur le chaos, les eaux, le tohu-bohu, et qui forme. Donc on voit un Dieu, entre pas monolithe, mais trinitaire, en trois personnes qui créaient. Le rôle de Jésus-Christ, sauveur et juge de ce monde, est différent que le Saint-Esprit, qui plane, qui crée, qui remplit, qui convainc, qui nous guide vers la vérité. Les trois personnes sont toutes les trois Dieu, égales, mais ont des rôles différents. De même, Dieu a créé donc homme et femme de façon différente, avec des sensibilités, des capacités différentes pour refléter sa gloire. Des aspects différents où l'homme sera plus sensible à certaines qualités caractéristiques de Dieu, et une femme, de par sa nature, sera sensible autrement, différemment. Un homme, donc, est différent d'une femme. Un pasteur a dit, c'est comme des rochers dans un port, il faut mieux les naviguer, ces différences, que de chercher à simplement aller tout dedans. On ne peut les ignorer. Ces différences restent. Ces différences aussi sont bénéfiques, de même que Dieu est complexe, Dieu est merveilleux dans sa personne. De même, nous, créés à son image, façonnés d'après lui, nous sommes tous différents, mais aussi entre l'homme et la femme, créés différemment pour refléter différemment sa gloire, sa personne, la beauté, la personne de Dieu. Donc, on peut, quelque part, se reposer, se relaxer et dire, on est différent. C'est OK dans un premier temps. Mais dans ces différences, il y a égalité, mais il y a aussi ordre. Et Dieu, dans sa sagesse, avait voulu, d'une part, bénir l'homme et la femme, multiplier, il a créé, il a dit c'était bon, mais il a donné aussi un ordre. Et aussi une complémentarité. Adam était seul. Et dans sa solitude, il a dit, Dieu lui a façonné un vis-à-vis. Et cette personne de vis-à-vis, complète, est différente qu'Adam. L'homme est différent de la femme. L'homme n'est pas sans femme, de même qu'on est tous tirés, issus d'une mère et d'un père. Il y a complémentarité des deux, mais l'homme n'est pas seul pour dire qu'il n'a pas besoin de la femme, et ce n'est pas non plus la femme seule pour dire « je n'existe pas ». Pour l'homme. Les deux sont complémentaires et c'est quand ils acceptent, on accepte les différences comme une création merveilleuse de Dieu et on le met au service de l'autre, de son entourage, qu'on accepte l'autre comme étant différent, en sensibilité, en capacité, en ce qu'on voit. Que les deux sont au mieux pour apprécier la famille, pour apprécier les amis, pour apprécier l'entourage et pour se comprendre. Dieu a donné à Adam et à moi la responsabilité prioritaire pour la famille. Avant qu'Ève ne soit créée, il dit à Adam, « De cet arbre, tu ne mangeras pas. Dès que tu mangeras, tu mourras certainement. » On voit que quand Ève et Adam sont revenus sur cela, on voit au contraire que ça commence à aller mal. On voit quand Adam laisse donc deux choses dans cette histoire, et puis on va se tourner un peu plus de près de cette histoire. Quand Adam laisse discrètement, reste muet à côté d'Ève, elle boit la tasse et lui, il reste inerte, muet, caché, invisible à son côté. C'est Dieu qui va demander à Adam, pas à Ève en premier lieu, à Adam des comptes. De deux, Adam s'en tire très très mal. Adam qui commence à balbutier, à en parler et dire que c'est la femme qui me l'a donné. Donc, tout simplement, deux choses ici qu'on peut apprendre de cette histoire. D'abord, le silence d'Adam nous crée des pépins et des problèmes. Des hommes et des femmes sont égaux, mais il y a dans cet ordre une responsabilité qui est donnée par Dieu à l'homme en première place. Quand Adam ne l'assume pas, il laisse sa chair étendre, aller au casse-pipe toute seule. C'est Dieu qui rappelle d'abord Adam. Deux tendances opposées, donc, dans ces relations. Premièrement, de s'effacer. La femme que tu as mise à mes côtés me l'a donnée. Ben, si elle était tout juste à côté de toi, pourquoi toi, tu n'as rien fait? Et puis, quand Dieu va chercher Adam, il lui demande, « Où es-tu ? » ?»« Ah, je me suis caché. J'avais honte. J'avais peur. J'ai désobéi. As-tu désobéi ? Oui. » Et puis, l'inimité, il blâme l'autre. C'est l'autre. Elle me l'a donné. La femme que toi, tu m'as donnée. C'est elle qui me l'a donnée à manger. On voit tout simplement les deux écarts qui créaient des problèmes. Premièrement, le silence, c'est de ne pas assumer ce leadership que Dieu demande et donne à l'homme. De deux, c'est une fois qu'il est dans le pétrin, ou comme Tim Keller reconnaît, il se trouve nu devant l'autre, découvert tel qu'il est, mais en faute, qui ne veut pas se présenter devant Dieu, il blâme l'autre pour se couvrir. Et là, ça crée des conflits. Inutile. Plutôt que de s'accepter sur la grâce de Dieu, de revenir vers un Dieu qui le cherche, qui nous cherche, et qui demande, mais où es-tu? Le péché est tout simplement de l'indépendance, de s'ériger, point fermé, cœur fermé, contre Dieu et dire, ben non, je fais ce que je veux, quand je le veux, et on renvoie, se balader, toute autre personne. Et ça se termine mal. Et Adam, quand ils sont donc en faute de leur rébellion, il y a l'inimité entre eux, il y a le blâme dans leur situation, et finalement, Dieu demande des comptes, d'abord à Adam, puis après à Ève. Donc, deux antithèses au leadership mâle, c'est je m'efface, je ne m'implique pas, je ne suis pas là, je ne fais pas, je n'assume pas. Ou de deux, c'est de dominer, c'est elle, c'est de blâmer, c'est l'autre, c'est d'essayer de s'en sortir en appuyant sur l'autre, de façon malsaine, pour se couvrir. Alors, ce qu'on veut vraiment, être un homme, comme dit Gordon MacDonald, un homme fort, et non pas qui use de sa force pour écraser ou dominer, mais plutôt pour bâtir, construire, bénir, guérir, aider l'autre qui est mis à sa charge. Dieu dit, quand il cherche Adam, je t'ai créé pour révéler ma gloire. Et quand l'homme et femme se retournent vers Dieu, se détournent de leur égoïsme, de leur indépendance, pour utiliser dons et capacités pour se justifier, pour se couvrir. Couvrir, c'est nudité, c'est incapacité, c'est crainte, c'est rébellion. C'est là où Dieu peut agir, guérir et bénir. C'est son plan. Les différences. On peut donc instrumentaliser, manipuler comme tout autre don pour son bien, entre guillemets, pour son avantage. Mais ça ne va créer qu'on se cache de plus en plus loin de l'autre, qu'on se cache de Dieu. Alors que Dieu, quand il pose la question « Où es-tu ?» et Adam répond « Il est là ». Et il reconnaît qu'il a honte et peur et qu'il y a l'inimité. C'est vers ce retour. Vers ce retour, vers le Dieu créateur, où Dieu lui-même commence ce processus de restauration, de guérison, de créer à son image l'homme et la femme tels que chacun a été façonné, créé, voulu être. Un homme, Larry Crabb, qui est un orateur, après 20 ans chrétien, après 20 ans de mariage, sa femme lui dit « Je n'aime pas l'idée de veiller avec toi. Ça m'enchante pas. » Et il s'était rendu compte qu'il avait encore du travail à faire. Il s'était rendu compte que ça, pour l'homme, la question « Ai-je ce qu'il me faut pour conduire les autres ?» Puis-je moi-même assumer, assurer? Puis-je aller faire être dans ma famille la personne à l'image de Dieu pour le refléter, sa gloire, son amour, sa compassion, sa grâce, sa bonté, tel que Dieu est, sans dominer, sans m'effacer parce que j'ai ce qu'il faut pour conduire l'autre? Je suis au fond de moi. Dieu crée, Dieu façonne, je lui laisse agir pour que, à mon tour, j'arrive à gérer, bénir, servir, diriger, aider. C'est pas toujours évident. On peut s'éclipser dans le silence parce qu'on ne sait pas, ou on peut prendre la main mise parce qu'on a peur et on a crainte et on ne sait pas quoi faire, donc on crie plus fort. On tape les poings sur la table pour cacher notre ignorance de la situation, notre peur ou notre honte. Alors, comment faire face? Je pense que en devenant un homme, on se tourne vers Dieu, on regarde vers Dieu qui est parfait et nous, on reflète sa gloire. Gordon MacDonald, un orateur, j'ai pris ses idées de lui, disait, on se tourne donc vers Dieu qui est plein de compassion, lent à la colère et riche en amour. Donc l'homme n'est pas comme Eric Larson, avec le Marlboro, le cigarette, avec son chapeau de cow-boy, qui est décédé au mois de janvier, le mois passé, d'une infection pulmonaire. Il est fumeur depuis l'âge de 14 ans. Ce n'est pas le plus dur et plus fort qu'on va vraiment donner ce qu'il faut pour d'autres, pour sa famille ou même sa propre vie. Au contraire, quand on se tourne vers Dieu, un Dieu qui est aimant et tendre et fort et saint, qu'on trouve les qualités qui lui-même, le Créateur, est à l'œuvre pour créer chez nous les hommes, en nous, de nous façonner pour qu'à notre tour nous reflétions sa personne, sa gloire, sa tendresse quand il faut, et sa force et son courage quand il faut, et de ne pas mélanger les deux. Premier point donc, à nous tourner vers ce Dieu. Où es-tu, Adam? Merci pour ce Dieu, ce Père qui vient, qui cherche, qui demande. Qui t'a dit? As-tu désobéi? Quel Père! Et c'est là où nous apprenons à être l'homme auprès de Dieu, quand Dieu lui-même nous parle, nous façonne, agit en nous. Pour qu'à notre tour, on arrive à aimer, prendre soin des autres. Comme Dieu le dit. Quand on regarde Jésus-Christ, une vie de compassion pour les marginalisés, le calme dans les situations mortelles, une maîtrise et le sacrifice aux disciples qui se disputent, la tendresse avec les enfants, le respect inhabituel pour les femmes, la bravure, en pleine colère contre l'injustice et le courage face à la mort. Quel homme! Parfait! Mais son esprit qui agit en nous façonne, crée en nous son image, le nouvel Adam, la nouvelle création, Jésus-Christ, par son esprit qui façonne et qui agit. Ça, c'est notre espoir. Ce n'est pas nous-mêmes. Ce n'est pas à nous effacer. Ce n'est pas le bel mondo qui va sortir, attirer, descendre tout. Non plus à s'effacer parce qu'on ne sait pas. Mais de demander à ce Dieu aimant qui ne sait pas rester là-haut, pour qu'on se débrouille, mais qu'il a envoyé Jésus-Christ, notre frère, marcher parmi nous, mourir pour nos fautes, revivre en nous, pour nous donner espoir et force, et pour que nous-mêmes nous revivions. Et puisque Dieu façonne, et puisqu'on est à l'écoute de Dieu, c'est là où on commence à agir comme il faut. On porte les fruits qu'il faut. On voit les bénéfices d'une vie consacrée à Dieu qui suit Jésus-Christ, où lui-même, il agit en nous. Il nous donne sagesse et compétence, parce que le caractère se façonne. Il veille sur son cœur, écoute l'instruction de ton Père. De deux, autour de lui, que ce soit dans la famille chrétienne, que ce soit de l'Église ou que ce soit dans sa propre famille, il apprend à prendre soin, à aimer l'autre comme Dieu l'aime. Il prend son repère, ses repères sur Dieu, pas sur les stars qui vont dans le mur de notre monde, de notre époque, mais plutôt d'apprendre comme il est aimé et pardonné et gracié de aimer, de pardonner, de faire grâce, mais aussi de donner direction. Et c'est un bel art, une merveille, et avec l'aide et la grâce de Dieu, on y parvient. Nietzsche qui parlait de surhomme, de sa propre force, mais je crois qu'il y a une meilleure façon. Plutôt un homme nouveau, recréé à l'image de Dieu, cette image qui reflète Dieu, sa grâce, sa bonté, sa tendresse, sa puissance, sa compassion, son pardon, sa direction, son courage. C'est Dieu donc qui est recréé. Si quelqu'un est en Christ, l'apôtre Paul disait, il est une nouvelle créature. C'est Dieu qui créait de l'intérieur. Les choses anciennes sont passées. La manière de vivre, les échecs, les péchés, les rébellions, quoique persistantes ou encore présentes, sont amoindries. Et l'image de Jésus-Christ prend cette place et se recrée en nous. Donc, mais avec, il y a le vouloir. Vous revêtir donc un commandement de l'homme nouveau créé selon Dieu dans sa justice et la sainteté qui produit la vérité. Dieu encore à l'œuvre. J'apprends donc à vivre comme Jésus-Christ parce que je regarde à Jésus-Christ, pas moi-même, non plus aux autres, mais Dieu qui façonne en moi, qui me permet donc d'aimer, d'agir comme lui, imparfaitement, mais réellement. Et c'est une joie énorme, parce que c'est Dieu qui est à l'œuvre, c'est Dieu qui est créé, parce qu'il est le Dieu créateur. Et à mon tour, en tant qu'homme, je peux refléter quelque part l'image de Jésus-Christ. Et ça, c'est un honneur, un privilège pour nous, les hommes, pour tout un chacun. Et les dames. C'est peut-être de respecter son mari. Nous en reparlerons dimanche prochain. Mais quand Dieu vous crée avec les sensibilités différentes, comme nous verrons, vous avez toute votre place, il y en a. Adam n'était pas sans la femme. C'était non plus la femme sans l'homme. Les deux sont égaux, mais différents. Et puis, il y a aussi le rôle où Dieu donne à Adam, à l'homme, plus de responsabilités. Quand il se tourne vers Dieu, quand il cherche dans son cœur à comprendre sa miséricorde, sa force, sa compassion, sa créativité, Dieu créé dans l'homme par sa parole, par son esprit, son image, il recrée Jésus-Christ. Il fait cet homme nouveau, éternel, pardonné, gracié, mais de l'intérieur. Et puis, il nous laisse jouer. Il nous donne cette responsabilité pour les nôtres, pour aimer, agir, conduire, pardonner, leur être modèle. Et les dames, vous aidez énormément en respectant votre mari, en lui laissant ou en encouragement de prendre cette place. Et parfois, on se sent bien nu, pas à la hauteur. Ça colle encore l'ancienne vie. Où est-il Jésus-Christ en moi? Que dois-je faire? Comment faire? Est-ce qu'il faut que je parle ou je reste silencieux? Et ne pas mélanger les pinceaux au bon moment, mauvais moment. Et donc, vous les dames, pas toujours facile. Mais c'est à votre tour aussi, quelque part, de ne pas dominer, opprimer votre mari. Ne pas lui enlever cette chance de suivre Dieu pour que lui-même, il apprenne. Lui à qui Dieu donnera cette responsabilité, Dieu demandera des comptes. On peut laisser Dieu agir et faire. Donc, de lui laisser une petite espace pour que lui-même, à son tour, il arrive. Avancez. Bénie soit la femme qui encourage son mari, qui lui laisse la place de croître, de grandir, de devenir cet homme que Dieu l'a façonné à être. Vous pouvez le faire. Et c'est énorme. Mais quand les deux trouvent les places dans les différences et créer. Et au lieu d'utiliser les tempéraments ou de se mettre l'un contre l'autre, ou de dominer l'autre, ou de s'opposer à l'autre d'une manière passive ou agressive, ouvertement, il y a l'harmonie, la beauté, la complémentarité, l'image de Dieu diverse. Différentes qui se manifestent, des sensibilités. Un homme n'est pas une femme. Les deux sont différents. On peut accepter cela et laisser à chacun et encourager chacun et de respecter et admirer les différences de caractère et de rôle. Parce que c'est là où je pense que chacun, de sa manière, reflète l'image et la gloire de Dieu. Dans sa tendresse, dans son interactivité, sa mutualité, Dieu le Père avec le Fils et le Saint-Esprit. Alors, quand le mariage est malheureux, quand l'autre ne lui donne pas cette place, ne lui respecte pas, l'opprime et plutôt tourne contre lui, ou en dérision ses efforts. Alors là, de s'accrocher sur Jésus-Christ, il y a un sauveur, et de le suivre par amour pour Dieu, d'aimer les autres autour en respectant leur sensibilité, leur différence telle que Dieu les a façonnés pour être, pour créer, pour refléter sa gloire et d'accepter quelque part, de persévérer, quand bien même peut-être que l'autre n'assume pas, ne respecte pas, n'accepte pas sa place, son rôle, ses différences, votre vie telle que vous êtes. Mais le plutôt de chercher à être responsable d'abord pour vous, d'aimer son conjoint, sa conjointe, ou tout simplement de respecter son effort, de l'encourager dans sa personne. Ce n'est pas toujours facile, mais Dieu est capable, Dieu est grand, Dieu est celui qui crée des différences et qui aussi donne grâce et force pour les vivre au mieux. Peut-être que c'est que l'autre ne voit Dieu à travers de vous, que l'autre ne voit que Dieu est à l'œuvre dans votre vie, que l'autre, donc, au lieu de se mettre en opposition contre vous, au contraire, se met pour votre bien, pour bénir, pour faire avancer ensemble. Les hommes et les femmes sont différents, avec des différences qui se complètent et qui reflètent chacun des gloires de Dieu. Développons donc pour les hommes à nous tourner vers Dieu, son caractère, de chercher à lui ressembler, chercher à faire son travail, chercher à accueillir la personne, la présence, la conduite, le comportement de Jésus-Christ, un sauveur, là où nous sommes. Et puis, d'apprendre auprès des autres à donner de sa personne, de sa conduite, de son comportement, de sa manière d'agir. Je pense que c'est comme ça la meilleure. Je vous invite à prier. Père éternel, tu es Dieu créateur, tu es Dieu aussi qui crée des mystères. Des mystères que parfois on ne veut pas plonger, on ne veut pas tout sonder, mais par la foi nous voulons essayer d'avancer pour t'aimer toi en première place, homme et femme, et ainsi de pouvoir te refléter. Merci parce que les gloires d'un Dieu créateur, nous sommes façonnés à ton image différemment, pour refléter différemment et dans sa juste place tes valeurs, ta personne. Et donc, nous voulons, hommes et femmes, simplement ce matin, nous venons à toi dans une société qui a du mal à savoir se positionner, à savoir vraiment arriver à construire. Donc, aide-nous à être sel et lumière, vérité et grâce, là où tu nous as placés, dans nos foyers et aussi autour de nous, pour que les hommes soient quelque part forts pour respecter, bâtir, construire, aimer dans la vie des autres. Comme a dit Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur qui est venu. Que ton nom soit glorifié dans ton peuple, que ta grâce et ta force et ta bonté et ta présence nous accompagnent tout un chacun, parce que nous sommes ta création. Si jamais tu n'as pas encore fait cette expérience merveilleuse de tout simplement venir à Jésus-Christ, lui laisser vous laver de vos péchés, de vous pardonner, de vous donner cette vie nouvelle. C'est par la foi en lui que nous venons, acceptons son pardon, sa grâce, et de repartir de nouveau à le suivre. Que Dieu vous accompagne, tout un chacun. C'est dans son nom et pour sa gloire que nous sommes réunis.